Vivez la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur RFI.
Et oui, dans deux jours, le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Vous le vivrez évidemment en direct sur cette antenne et jusqu'au 6 février. On en parle jusqu'à 9h, édition spéciale en direct de Yaoundé. Sur ce plateau, Joseph-Antoine Bell, Joël Wadem, Olivier Pron. Alors, on le disait avant la pause, ce sera une CAN sous le signe du Covid-19. Dispositif sanitaire inédit dans l'histoire de la compétition. Des jauges dans les stades, 60% de leur capacité, sauf pour les matchs du Cameroun, là où la jauge sera portée à 80%, vaccin obligatoire pour entrer. Alors ici, avant la CAN, on comptait moins de 3% de personnes vaccinées. Et hier, c'était la ruée vers le centre international de vaccination d'Yaoundé. Beaucoup de monde. Reportage de notre correspondant Fabien Essiane.
On décharge d'un conteneur des cartons de vaccins à destination du centre international de vaccination de Yaoundé. Car la demande est de plus en plus forte à quelques heures du début de la CAN. Le docteur Ntchobe Ndjob Bolobolo est le chef du centre.
Le centre n'a jamais autant été sollicité. Nous sommes très contents de cela et l'adhésion elle est très forte. Nous sommes à près de 450, voire 500 par jour sur site, sans compter que nous avons des équipes mobiles qui sont déployées par jour dans certaines artères, des lieux de regroupement, des associations et tout. Donc l'affluence elle est grande.
Fidèle Désiré Ambassa est là depuis plusieurs heures. Il ne veut rien rater de la compétition.
Pour soutenir nos lions indomptables, nous sommes obligés de nous faire vacciner, bien que nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce vaccin.
Le personnel de santé est donc mobilisé pour répondre aux inquiétudes de la population, comme cette infirmière qui rassure les candidats à la vaccination.
Comme je disais à votre frère, on va vous faire la piqûre au niveau de l'épaule gauche, si vous êtes droitier. Okay. Après la piqûre, vous allez donc attendre 15 minutes. Le temps de juste vous observer.
Malgré tous ces efforts des autorités sanitaires du Cameroun, certaines sources parlent de l'existence des réseaux de fabrication et de distribution des carnets de vaccination falsifiés. Même si les responsables du ministère de la Santé se refusent encore à l'accepter.
Voilà pour ce reportage de Fabien Essiane. Certains jouent le jeu de la vaccination, d'autres essaient de contourner l'obstacle. Il y aura aussi les tests obligatoires. Ça va être un sacré défi logistique, Joël Wadem. Si on compte les 60 000 places de l'OMB à 80% de la capacité, ça fait quand même 48 000 personnes à tester là, avant chaque rencontre.
Oui, la semaine dernière, nous avons rencontré le coordonnateur du centre de vaccination du Cameroun. Il nous a indiqué qu'on était déjà à 1 million de vaccinés et qu'avec la CAN, on aura 200 000 personnes de plus qui seront vaccinées et que les dispositifs avaient été pris pour qu'il y ait des équipes de vaccination partout. Donc, en principe, le matériel ne manquera pas.
D'accord. La vaccination n'était pas exigible au moment de l'achat des billets, si j'ai bien compris. Il va falloir présenter une preuve à l'entrée au stade.
Tout à fait. Au niveau de l'achat des billets, on nous a dit que ce n'était pas leur job. Eux, ils doivent vendre les billets. Maintenant, c'est au niveau du stade qu'il faudra impérativement présenter un carnet de vaccination avec une vaccination complète ou bien incomplète, mais accompagné soit d'un test PCR datant de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures.
Et négatif. Je salue Junior Bignam qui vient de nous rejoindre dans ce studio, ancien directeur de la communication de la CAF. C'était sous le mandat d'Issa Ayatou. Vous avez été également journaliste. C'est effectivement une drôle de canne qui s'ouvre avec cette contrainte sanitaire énorme. Ça va changer la donne ?
Certainement, on ne va pas pouvoir se départir de ce carcan qui est imposé par la pandémie depuis plus de 2 ans, notamment sur les événements sportifs qui drainent forcément des populations. Mais au Cameroun, je crois percevoir une volonté chez les Camerounais de ne pas reculer devant le moindre obstacle pour vivre cette fête qu'ils ont attendue, qu'ils ont désirée. Et je pense, Joël le disait tout à l'heure, que même ceux qui étaient réfractaires à la vaccination, qui interrogent la pertinence de cette vaccination, sont en train d'y sacrifier tout simplement pour pouvoir vivre le rêve d'une vie. Parce que
plutôt que de regarder ça à la télé, autant se faire vacciner.
On a une occurrence, la dernière, quand c'était il y a 50 ans, il y en a qui se disent qu'ils la vivront peut-être jamais s'ils n'y vont pas cette fois.
Et Joseph-Antoine Bell, il y a aussi un effet Covid et contraintes sanitaires sur les équipes, sur les sélections. Et on le voit depuis plusieurs semaines et singulièrement hier avec le cas du Gabon.
Oui, tout le monde doit s'adapter et ceux qui s'adaptent mal en souffrent forcément plus. J'ai entendu beaucoup de critiques sur l'équipe du Maroc, des choses qui ont été mal interprétées. Je pense qu'il faut savoir qu'avec la pandémie, on est obligé de prendre des mesures et de s'adapter. Et donc les joueurs, leur staff et les dirigeants, tout le monde doit s'adapter. Mmh. Je pense
mais quand
que...
une pièce maîtresse de l'équipe vient à manquer, là on a effectivement appris hier que Pierre-Emerick Aubameyang était testé positif. Comment ça se passe? Comment on gère?
Mais simplement, il est isolé. Vous savez, le foot se joue avec les présents. Donc, quelle que soit la qualité du joueur, il peut être blessé. Et donc, ce n'est jamais le nom d'un joueur qui est sur le tableau d'affichage, c'est le nom de l'équipe. Et l'entraîneur doit le savoir, les partenaires doivent le savoir, les dirigeants aussi. Donc, tout le monde peut être blessé, tout le monde peut être malade. Et là, si Pierre-Emerick est blessé, ben, le Gabon joue sans lui.
Mmh. On s'adapte, Olivier, c'est ça.
Toutes les équipes,
ça va être comme ça tout le long de la compétition.
Toutes les équipes ont été ou seront touchées, personne n'y échappe. Il faut savoir effectivement s'adapter. Jo le disait, on a beaucoup parlé des 5 tonnes de matériel avec lesquels sont arrivés les Marocains, mais ils ne souhaitent prendre aucun risque, s'isoler, tout gérer pour justement ne pas avoir ce genre de problème. Peut-être qu'à l'arrivée, le vainqueur sera celui qui aura le mieux géré aussi ce côté-là du tournoi, parce qu'il faut bien considérer que le Covid s'est invité à la fête et que il va falloir faire avec.
Et que c'est l'invité surprise. Cette question sanitaire, Joseph-Antoine, a donné lieu avant la CAN à un bras de fer hein, entre les clubs européens et les sélections. On l'a beaucoup raconté hein, sur cette antenne. Il y a l'exemple des Lions de la Teranga qui ont attendu le feu vert de Watford quasiment jusqu'au dernier moment pour libérer Ismaïla Sarr. Qu'est-ce que vous en pensez?
que la pandémie a bon dos. Les problèmes de libération des joueurs africains se posent longtemps avant qu'on ait imaginé qu'une pandémie pourrait toucher le foot aussi. Donc, non, évoquer la pandémie pour ne pas libérer les joueurs, c'est simplement ne pas connaître ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les gens pensent à leurs intérêts et que dans leurs relations, ils oublient les autres. Et donc... Les clubs européens pensent à leur championnat qui se joue et aux matchs délicats qu'ils ont et à ce que leur apportent les joueurs africains. Lesquels joueurs africains, bien qu'ils soient des jeunes gens, mais s'ils ne montrent pas plus de caractère, on ne leur montrera pas suffisamment de respect. Mmh. On essaye de... En fait, on vous fait croire qu'on vous respecte, vous, mais pas votre famille. Et ça, c'est inadmissible. Chacun adore sa mère. Vous ne pouvez pas me respecter.
Sans respecter la sélection pour laquelle je joue. Julien ouais. Bignan, vous êtes d'accord? La pandémie a bon dos. Il y a de vrais conflits, de vraies tensions entre le foot européen et les sélections africaines?
Ce n'est pas une problématique nouvelle, la périodicité de la CAN. Je pense qu'elle a été une bataille permanente à partir du moment où les talents africains ont su s'imposer en Europe. On a toujours essayé d'avoir une date qui s'y est à l'Europe et des conditions qui s'y est à l'Europe beaucoup plus que des conditions qui pourraient être bénéfiques pour l'Afrique. Donc on est parti d'une CAN qui se joint de mars à avril pour revenir à une CAN en janvier qui était déjà l'objet d'un compromis de jouer en janvier parce que c'était l'époque la trêve hivernale et pour éviter que Joe, par exemple, en 88, qui devait faire la navette entre Marseille et Casablanca pour jouer des matchs de CAN, n'est plus à le faire. On est revenu en janvier pour que les joueurs soient libres pendant la trêve hivernale et puissent venir jouer en Afrique. Mmh. Donc on a toujours trouvé quelque chose, mais il se fait qu'entre-temps, on a essayé d'engranger plus de recettes dans le professionnalisme, dans le foot business en Europe, et on essaie de le faire au détriment de l'Afrique. On a créé de nouvelles compétitions qui sont venues obstruer cette trêve hivernale qui s'est raccourcie, et on demande à l'Afrique, comme toujours, de se pousser et de céder.
Bon, Olivier et,
effectivement, je vais juste compléter parce que les plus anciens doivent se rappeler qu'en décembre, janvier, on ne jouait pas en Europe et les clubs européens venaient même en Afrique pour trouver du soleil. Et puis, finalement, le foot business, oui, c'est bien de penser à toujours faire rentrer de l'argent. On a investi parce qu'à l'époque, eh bien, les terrains étaient gelés. Et aujourd'hui, on a investi dans des gazons chauffants qui font que les terrains ne sont plus gelés pour pouvoir jouer, mais ça remet en cause l'accord qu'il y a eu avec l'Afrique qui avait ramené sa CAN pendant la trêve. Et bon, on peut pas, il faut bien de l'espace pour nous aussi. Vous pouvez pas occuper les 12 mois de l'année et ne pas laisser exister les Africains. Surtout, faut se dire une chose, jamais la Copa América ne pose de problème aux Européens.
Il y a un cas particulier pour la CAN.
Mais voilà, mais parce que c'est un problème de respect, il faut que les joueurs africains et leurs dirigeants sachent se faire respecter.
Olivier.
Et ça. Et parce que l'Europe, c'est là où une majorité de joueurs africains jouent. Ces chiffres, là, sont parlants. 104 joueurs sélectionnés pour cette CAN viennent de Ligue 1. 52 joueurs viennent de Première Ligue. 31 joueurs d'Espagne. 26 du championnat de Belgique. Donc, serait-ce que pour la Ligue 1, 104 joueurs qui vont quitter leur club, mais encore une fois, pour une bonne et juste cause. C'est le maillot national et c'est la sélection. Et tout est dit.
Un tout petit mot encore sur cette question du calendrier et de la place de la CAN. Si on passe à une Coupe du Monde tous les deux ans, ça compliquera encore la donne ?
Je cherchais vraiment à compliquer.
Mais c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est dans les tuyaux ?
Oui, puis on parle même d'un euro maintenant tous les deux ans aussi. Gianni Infantino, tout ce qu'il peut rapporter, il aime ça.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette rivalité, ce bras de fer entre clubs européens et CAN, la question de la gouvernance du foot africain et de la gouvernance de la CAF, peut-être, Junior Bignam.
La problématique, elle est centrale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des œillères pour se rendre compte que la CAF est désormais sous tutelle de la FIFA, et donc que la FIFA pense qu'elle peut, comme avec de la pâte à modeler, faire de l'Afrique ce qu'elle veut quand on en vient au calendrier. Quand on a évoqué la Coupe du Monde des clubs, on nous a dit que pour des raisons climatiques, juin qui avait été acclamé par tout le monde. Je pense d'ailleurs que Joe, qui était à Rabat à l'époque, quand on a fait le symposium de Rabat, était de ceux qui avaient salué cette décision de désormais jouer en juin, en disant qu'il ne fallait pas continuer à tirailler les joueurs entre l'amour de leur famille et le devoir qu'ils avaient vis-à-vis de leur patron. On nous a dit « Ok, juin, c'est acté ». Et puis on est revenu, on est allé à une réunion du conseil de la FIFA en Chine. Il se pourrait qu'il y avait des investisseurs dans le tuyau et il fallait de la place pour la Coupe du Monde des clubs. Mmh. On a dit aux Camerounais, ah, mais vous avez oublié, chez vous, il pleut en janvier. Mmh. Il pleut chez vous en juin, donc vous jouerez en janvier, c'est le nouvel. Et on nous a dit, à l'époque, le président de la CAF, M. Hamad, carrément a dit que la CAN, désormais, ce serait en fonction du climat. Il n'y a aucun événement qui se programme comme ça. Vous et moi sommes journalistes, nous savons qu'il y a un rendez-vous avec des lecteurs, il y a un rendez-vous avec des auditeurs. C'est le must. Si vous dites que votre journal il commence à 7h30, il doit commencer à 7h30. Vous ne pouvez pas avoir un journal de saison sèche et un journal de saison de pluie. Or, il apparaît que c'est ce qu'on proposait désormais à l'Afrique.
Sauf que le journal ne se joue pas en extérieur. Mais c'est vrai que ça n'est pas une raison. Issa Ayatou, l'ancien patron de la CAF, ne sera pas à Olembe dimanche. On rappelle qu'il a été condamné dans l'affaire des droits de retransmission télévisée. Interdit de toute activité liée au football, Joël ?
Je voudrais signaler que Issa Ayatou a fait appel de sa sentence. Et fort de cela, Issa Ayatou peut bien être dimanche à Olembe au match d'ouverture. C'est ce que je voudrais dire.
Bon, je pense qu'il appartiendra à M. Ayatou de décider de ce qu'il souhaitera faire. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il y ait quelqu'un qui se mette en travers de son chemin s'il devait rentrer dans un stade au Cameroun. C'est inimaginable. Ça n'arrivera pas. Et on a d'ailleurs le cas de la Coupe du Monde en Russie où, malgré la sanction qui pendait sur le président Blatter, il avait été effectivement invité par le président Poutine et a choisi d'y renoncer. Platini, en 2016, était bien invité à l'Euro et a choisi librement d'y renoncer. Donc, M. Ayatou conserve des fonctions importantes au sein. Il est d'ailleurs conseiller au sein du COCAN, ça on ne le rappelle pas assez. Il garde une fonction au sein du COCAN. Il est président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football.
Ouais.
Donc, il va être résolument impossible d'empêcher que M. Ayatou soit au stade s'il veut être au stade.
Thank you. 7h49 à Paris et Yaoundé, RFI en direct de la capitale camerounaise où l'on se prépare au coup d'envoi de la 33e CAN. Mais au fait, à quoi ressemble le quotidien d'un footballeur ici quand il ne fait pas partie de l'élite hein. Écoutez, Gilbert, témoignage. Amélie Tulé l'a rencontré ici à Yaoundé. Il joue en première division, mais il a du mal à se faire payer par son club. Et pour gagner sa vie, eh bien, il vend à la sauvette sur l'avenue Kennedy, décédé.
On va organiser une CAN. Où sont les acteurs du football ? On ne les voit pas. Parce que le football d'abord, au pays d'abord, ça ne va pas. Quand j'ai fini les entraînements comme ça, à 8h, je me retrouve à l'avenue Kennedy, je commence à vendre mes CD. Depuis 3 ans, il n'y a pas de championnat au Cameroun. Tu joues aujourd'hui, tu fais encore 2 mois, tu attends, tu es au quartier. Moi, j'ai joué cette année, j'ai eu 6 mois d'aéré. Il y a dit que mieux, je continue avant de m'essayer. Tu passes chez le président de Platon, tu sais qu'il n'a pas. Donc, c'est très dur. Actuellement, c'est difficile.
Voilà, des arriérés de salaire, pas de championnat depuis 3 ans au Cameroun. Joseph-Antoine Mel, on peut attendre du changement avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECA Foot?
Chaque fois qu'il y a un changement de personne, on espère qu'il y ait un changement dans les comportements, dans les pratiques. Maintenant, jusqu'où peuvent aller les changements? Ce que je sais, c'est que personnellement, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai dit que nous n'étions pas dans la bonne direction. Et donc, si je continue à réfléchir rationnellement, ça veut dire que chaque année qui est passée a aggravé la situation. Et si vous vous êtes trompé, plus le temps passe, plus vous avancez loin de votre itinéraire, ce qui veut dire que pour retrouver votre chemin, il vous faudra encore plus de temps. Et donc,
Mais c'est quoi cette mauvaise direction que vous évoquez concrètement? C'est quoi?
Concrètement, c'est que tous les jours, il y a un petit écart dans ce que nous faisons et on l'accepte. Je vous prends un exemple. Dans l'armée, on vous dit on peut prendre la taille minimum, c'est 1m60. Très bien. Si quelqu'un décide que 1m59, c'est pas loin de 1m60, très bien. Sauf que l'année d'après, le suivant va dire que 58, c'est pas loin de 59. Donc, en faisant cela, 10 ans plus tard, vous avez des gens de 1m50 et là, l'écart se voit. Et donc, ce qui s'est passé dans le football camerounais, c'est que petit à petit, on a pris des petits écarts pour arriver. Vous entendez aujourd'hui des joueurs qui vous disent qu'ils sont pas payés. Pour être payé, il faut avoir un contrat. Est-ce qu'ils ont déjà un contrat? On a baptisé football professionnel un amateurisme qui n'était même pas organisé. Et donc, tout cela a contribué à aller de plus en plus loin. Vous avez entendu Junior et Joël vous dire que Blatter était sanctionné, Platini aussi. Ils ont été invités, mais ils n'y sont pas allés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la notion d'éthique. Ils savent qu'ils sont sanctionnés. Si vous voulez faire le bras de fer, vous les invitez, vous dites personne ne peut m'empêcher d'entrer.
Et vous nous dites que c'est ce qui manque aujourd'hui au football camerounais?
Le football camerounais n'a aucune éthique, à aucun niveau. Et donc, résultat, tout est permis. Il y a des matchs, ça se sait, on ne se rend pas compte. On vous donne, vous avez un match qui s'est joué, 3 mois ou 5 mois plus tard, on vous dit que le résultat que vous aviez vu au stade n'est pas le bon. On vient de décider que le résultat est un autre. Et ça, on ne se rend pas compte de quel effet ça fait sur ceux qui ont vu le match.
Je voudrais vous entendre, Junior Bignam, sur ce que nous dit Joseph-Antoine Bell.
Non, c'est ce que Joe dit, même si on peut être à la lisière de la caricature à bien des égards, est pertinent. C'est-à-dire que sur des éléments simples, aujourd'hui, le calendrier du championnat camerounais, il n'y a aucune maîtrise. Le Cameroun se retrouve chaque année, depuis au moins une quinzaine d'années, à rédiger des lettres à la CAF pour demander des exemptions quand arrive le délai auquel il faut communiquer les noms des équipes camerounaises représentatives en compétition africaine. Tout simplement parce que la saison n'est pas maîtrisée. Vous jouez une journée aujourd'hui pour que demain les présidents de clubs rentrent en grève parce qu'ils attendent une subvention du gouvernement. Donc c'est un professionnalisme qu'on a pensé pouvoir subventionner et qui ne marche pas. Il faut juste espérer que l'élection de Samuel Eto'o parviennent déjà à créer les synergies et les convergences qu'on croit entrevoir et qu'enfin on recommence à penser au foot. Il y a de l'engouement chez les personnes que vous rencontrez dans la rue qui pensent que la seule présence d'Eto'o est un sésame, est une panacée. C'est déjà pas mal parce que ces personnes recommenceront à faire l'acte d'achat d'un ticket pour aller regarder un match du championnat local en se disant « c'était tout pourri, ça changeait du tout au tout parce que Samuel ». Et les clubs localement ont besoin de cette ressource financière-là pour se structurer.
Donc il y a quand même une dynamique vertueuse qui peut s'enclencher, mais rien n'est garanti, c'est ça?
On l'espère, mais rien n'est garanti. Et tout à l'heure, on évoquait la CAN, mais il faut bien dire que la CAN aujourd'hui, les tiraillements avec les clubs européens sont nés du fait que l'Afrique a un peu trop bénéficié de l'arrêt Bosman et a fini par négliger ce qu'était la base. La plupart des clubs africains à la CAN avaient des effectifs à 60-70% issus du continent. Aujourd'hui, on dépend entièrement des binationaux. On a même d'ailleurs le phénomène de fédérations qui commettent des pools entiers de personnes qui doivent parcourir l'Île-de-France à la recherche des binationaux qui doivent être désormais détectés très tôt sans se soucier de la politique de formation et de détection en interne.
Olivier ?
Et une formation qui se met en place et qui est particulièrement intéressante au Cameroun, où on a de plus en plus de centres de formation qui produisent des joueurs, et effectivement, bah, c'est vrai aussi dans l'autre sens, hein, des joueurs qui sont très très vite repérés pour essayer de les attirer en Europe. Je précise tout à l'heure que quand je disais 104 joueurs qui viennent de Ligue 1, c'est des championnats de France, hein, Ligue 1, Ligue 2 bien sûr, voire nationale. Partout, en fait, il y a des joueurs africains, et parfois en âge récent, en bas âge.
8h-5 à Paris, on va revenir à ce qui nous occupe, cette CAN, 33e Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvrira dimanche. Olivier, on fait le tour des sites avec vous, on ne les a pas encore, ouais, on les rappelle. Tout le monde, le service des sports évidemment, y sera, Yaoundé.
Oui, voilà. En fait la volonté elle a été aussi, on ne l'a pas assez dit depuis le début de cette spéciale, d'intéresser tout le pays. Donc il fallait aller partout, même là où supposément c'est un peu plus tendu. Alors on va au nord, à Garoua, évidemment, à 1300 km d'ici, Yaoundé la capitale. On va bien sûr à l'ouest, à Bafoussam dans les collines, et encore un peu plus à l'ouest et au sud, du côté de Limbé, sur le littoral, et bien sûr dans la capitale économique, Douala. Il y aura deux groupes ici à Yaoundé, un groupe partout ailleurs. On a fait le tour, 5 villes, 6 stades, 4 rénovés, 2 entièrement construits, et on a été assez raisonnable. Le décor est planté, il n'y a plus qu'à.
Le décor est planté, il n'y a plus qu'à. Un mot du dispositif RFI pour cette 33e CAN, vous êtes là en force, hein, faut le dire.
Vous me laissez 10 minutes pour avoir le temps de citer tout le
monde. On en a... Une, deux.
Non. Alors quelques chiffres. 8 journalistes du service des sports répartis un petit peu partout. Traditionnellement, il y en a toujours un par site. Évidemment, il ne faut pas oublier bien sûr les multimédias. Il y aura beaucoup de vidéos. Des vidéastes sont là. Il y aura bien sûr toute une partie de l'équipe emmenée par David Kalfa qui sera lui à Issy-les-Moulineaux. Mais vous retrouverez bien sûr tout ce qu'on vous racontera à l'antenne par écrit sur le site. Et puis, puisque vous allez nous entendre, il ne faut pas oublier toute la partie technique et toute l'équipe de Denis Chastel qui est là évidemment en nombre, encore une fois répartie sur tous les sites. Plus de 32 matchs en direct. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je suis sûr que Christophe Jousset va me le rappeler dès que j'aurai quitté ce studio.
Il est juste à côté.
Il est juste derrière.
C'est 32 ?
42,
voilà, plus de 32. Je ne m'étais pas tout à fait trompé.
Non, je corrige, c'est 52 matchs.
Oui, mais 42 sur notre antenne. 42 sur notre antenne, bien sûr, du match d'ouverture dimanche jusqu'à la finale le 6 février.
Vous ne pouviez pas tous les avoir parce que j'ai un souci avec la programmation qui a été faite, certains matchs. On ne peut pas avoir deux coups d'envoi à la même heure avant la troisième journée. Ah. C'est symptomatique des problèmes que l'Afrique rencontre désormais dans l'administration de son football. Vous vous imaginez un euro avec deux coups d'envoi à la même heure pour un match de deuxième journée? Vous perdez en recette, vous perdez en diffuseur, vous perdez forcément quelque chose. On a pour le 14 janvier, un match qui commence à 17h à Yaoundé, un match qui commence à 17h à Bafoussam. Comment on a fait pour en arriver là?
C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir tous les retransmettre sur notre antenne. On n'oublie pas Ali Gasnier et son orchestre, Radio Foot
qui International qui sera
depuis Issy-les-Moulineaux et qui viendra passer 8 jours ici.
Et effectivement, et toute la production sur notre site internet. Merci à vous, messieurs, Joseph-Antoine Bell, Junior Bignam, Joël Ouadem, Olivier Pron. On va se retrouver dans un peu plus d'une minute pour la deuxième partie de cette édition spéciale en direct de Yaoundé. On évoquera la situation économique et politique dans laquelle s'ouvre cette compétition que le